GB est mort. Bien sûr, il y a la reine d'Angleterre à Paris, mais quand même, ça me console pas. GB est mort. Ça vous dit rien, GB ? Eh ben, je vais vous dire. GB, c'était le plus grand. GB, c'était le plus fort. GB, c'était le plus intelligent. GB, c'était le meilleur. Il était meilleur en tout. Il était le meilleur en dessin. Il était le meilleur en musique. Il était le meilleur en rédaction. Il était le meilleur en saut en hauteur. Et même en tour du monde à la voile, il était le meilleur. Il était le meilleur en opération à cœur ouvert et même en conquête spatiale. GB fut le premier à marcher sur la Lune et il n'était pas plus fier pour ça. Il y revenait, il posait son casque sur le comptoir et il commandait un petit ballon de Macon. Simple, il était. Il avait su rester simple et c'est ce que disait le général de Gaulle. Il disait « GB me donne toujours des bons tuyaux et en plus il est resté simple ». C'est comme Picasso. Picasso aussi disait ça de GB. Il disait, c'est lui qui m'a filé l'idée du cubisme, mais il n'en a jamais reparlé. Sartre, pareil. John Lennon, Bill Gates, Catherine Deneuve, Jean-Pierre Pernaut, GB faisait l'unanimité. GB, un génie à découvrir ou à redécouvrir en vente partout.
En hommage à GB, TF1 diffusera ce soir l'An 01. Bon, ok, je rêve, mais avec GB, il est encore possible de rêver, non? Alors voilà, aujourd'hui GB s'est arrêté, il ne nous fera plus réfléchir, et on est triste.
J'appelle parce que j'ai appris que GB était mort. Enfin, GB est mort pour moi, c'est mon adolescence, une partie de mon enfance. C'est aussi beaucoup d'expressions à travers l'an 1 qui correspondaient à ce que j'aspirais philosophiquement de la vie. GB, c'était quelqu'un quand même. J'ai laissé beaucoup d'humour dans Charlie Hebdo, beaucoup de nostalgie aussi, même sur les années du temps de Londres, car il avait connu l'occupation. Je voulais dire que je suis vraiment triste de savoir que lui est parti, et ce papon est encore là. Et ça, c'est affreux. Le seul plaisir que j'ai, c'est qu'il est mort juste après que Raffarin ait pris une sale claque dans la gueule. C'est Joël Fraude Cachan. Je vous laisse.
GB est mort. Ça va faire beaucoup de bruit, ça, c'est sûr. C'était pourtant un des plus grands philosophes de la fin du XXe siècle. Et il faudra qu'on bosse beaucoup pour le déterrer. Vraiment, il faudra qu'on bosse beaucoup. GB est mort et... GB est mort. Je voulais lui écrire depuis 3 semaines, 1 mois, 6 mois, et puis je l'ai pas fait, et merde!
C'est marrant, parce que dimanche dernier, des militants de l'attaque, dans le cadre des festivals des résistances à Lyon, avaient fait diffuser au cinéma Le Zola, Villeurbanne, l'an 01, de GB. On a pu s'apercevoir que ce film n'avait pas vieilli du tout, parce qu'on voit que les choses n'ont pas bougé au niveau de ce que vivent les gens quotidiennement un peu partout sur la planète. Et ça serait bien si on pouvait diffuser ce film un peu partout dans les cinoches et puis même à la télé. Ça t'a fait ou pas rêver. Enfin bon, voilà, c'était pour dire qu'en fait, ce qu'avait écrit GB avait pas vieilli, c'est encore l'avant-garde. Et je trouve que dans les mouvements altermondialistes et les mouvements un peu de résistance à tout ce qui nous oppresse aujourd'hui, c'est ce genre de rêve qui manque, je trouve. Voilà, donc c'était un message de Fred, de Breno, et voilà, encore un qui part. Après Béranger, GB, enfin bref. Allez, ciao, à bientôt.
Allô, bonjour, je m'appelle Jeanne, j'habite à Paris. J'ai entendu vos émissions sur le Rwanda, et je suis très contente qu'on parle un peu du génocide à l'occasion de ce 10e anniversaire. Je voulais juste vous dire que les associations de rescapés Tutsi avaient demandé une autorisation de manifester pour mercredi, et qu'on leur a longtemps refusé. Finalement, on leur a donné l'autorisation de manifester en longeant le cimetière de Montparnasse, ce qui est un triste symbole, tandis que les associations de Hutu, qui commémorent l'assassinat du président Habyarimana, ont l'autorisation de manifester sur le parvis des droits de l'homme demain mardi. Donc, voilà, place qui est réservée aux rescapés par la France et l'importance au contraire qu'on accorde aux Hutus génocidaires en l'occurrence, puisque si tous les Hutus n'ont pas été, ceux qui manifesteront demain les auront au moins soutenus. Voilà, merci, au revoir.
Voilà une histoire qui n'est pas terminée, celle de ce, l'histoire de ce génocide n'est pas près de nous lâcher. Cette histoire a des griffes et ne nous lâchera pas de sitôt. Nous aujourd'hui, on reste à Niaroubouillet. On reste et on va rester là. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé exactement, le plus exactement possible. Dans ce lieu, autour de cette paroisse, de cette église monstrueuse, cette église de briques, où il y a 10 ans nous avions découvert ce charnier. On a voulu, avec Give, interroger le plus possible de témoins de l'époque, pour qu'ils nous disent comment ça s'est déroulé, qu'est-ce qui s'est passé, dans quel état d'esprit étaient les gens, qui étaient là, quels étaient les acteurs de ce massacre, à quelle heure, à quel moment, pourquoi. On n'a pas la prétention de faire un récit vraiment exhaustif, très très précis de ce qui s'est passé, mais quand même assez précis, suffisamment précis pour que ça constitue, au moins dans notre esprit à nous, une sorte d'hommage. Une sorte d'hommage à ceux qui ont disparu là et à aux survivants. On leur doit ça, on leur doit d'avoir une mémoire, on leur doit de travailler pour eux, pour qu'ils aient, qu'ils sachent ce qui s'est passé. C'est très très important de savoir, car sinon, eh bien c'est l'oubli. Et l'oubli, ce serait accomplir, ce serait collaborer à l'accomplissement de l'idée. Des génocidaires, c'est-à-dire qu'aucun témoin ne survive, qu'aucun témoignage ne survive, et qu'après que ces hommes, ces femmes et ces enfants aient été détruits dans leur chair, ils soient détruits dans leur esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui nous retournons au Rwanda.
Salut Daniel, pour la première fois j'ai vraiment honte d'être française. Ciao.
Sekalimana yabibayemo uko bari babikazemo nabonaga ko nta muntu ugomba kurokoka nabonaga ko ahubwo bashaka kumara abantu bose.
Il ne devait pas y avoir de survivants parce que il y avait tellement de force dans cette attaque. Il n'y a que Dieu qui a fait qu'il y ait des survivants.
Nani joro niyo ryamye nkunda kubabona bakaza bakansuhuza.
Même la nuit, quand je dors, j'ai l'impression de les voir, j'ai l'impression qu'ils me disent bonjour, que je leur parle.
Les tueurs, vous les connaissiez?
Oui, nous les connaissions.
C'était des amis d'enfance?
Oui, parmi eux, il y avait nos voisins.
C'était impossible de leur parler. Vous avez essayé de leur parler?
Oui, nous avons imploré pardon. Ceux qui avaient de l'argent donnaient de l'argent. On s'agenouillait pour demander pardon en vain. Ils ont pris l'argent, ils ont pris tout ce qu'on avait, mais ils nous ont tués par après.
Les gens criaient, les gens hurlaient.
Oui, ils ont commencé à hurler, puis après, on n'attendait plus rien du tout, parce que on les avait tués. Les militaires nous ont dit, frappez partout, la tête, les jambes, les genoux, mais... assurez-vous qu'il est bien mort.
Les Tutsis de ta colline, tu les as vus mourir?
Et bah, me barapouiller avant.
Oui, je les ai vus. Et tu as tué les Tutsis de ta colline?
bamwe barapfuye.
Oui, ils sont morts.
Barapfuye abandi bishwe baguye ngiyo mbese ntawo kutavangura gasego
agira ngo je l'ai tué sans distinction. De toute façon, je ne pouvais pas distinguer.
Ouais, j'ai juste une question à vous poser à tous les deux. Moi, je suis venu ici il y a 10 ans. J'étais avec d'autres journalistes et avec des militaires du FPR. On a été les premiers à arriver ici le 24 mai 1994. Mmh. Il y avait des cadavres partout. Il y en avait dans l'église, il y en avait ici, 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 là, et après, des montagnes de cadavres. Là-bas, dans la cour, dans les cadavres, on a vu un enfant qui bougeait encore, qui était encore vivant. Cet enfant, c'était une petite fillette de 13 ans qui s'appelle Valentine. On l'a sortie de là. Mmh. C'est la seule survivante du massacre de Niaroubouillet. J'ai une question à vous poser à tous les deux. Est-ce que vous pourriez venir en face d'elle, la regarder dans les yeux comme ça, et lui dire pardon?
Rien.
Non.
Les morts et les remords, les morts vivants et ceux qui n'ont pas de remords, qui ne voient pas pourquoi ils auraient des remords, qui font semblant d'avoir des remords, mais qui se disent « oui, oui, bien sûr, tu ne tueras point, tu ne tueras point, sauf, il y a des moments où l'on tue par conscience, où l'on tue pour sauver sa vie, où l'on croit qu'il faut tuer pour sauver sa vie. Pourquoi ces hommes ont-ils tué? C'est très compliqué. On trouve des raisons, on en trouve immédiatement, puis après on n'en trouve plus. On n'arrive pas vraiment à savoir pourquoi ils ont tué. On trouve des motifs. Et puis au bout d'un moment, on s'épuise. Il y a un ongle mort à un moment. Et puis les autres en face, quelle résistance ils ont opposée à leur destruction. On présente très souvent les victimes, les Tutsis et les Hutus modérés, comme on dit, c'est-à-dire les Hutus qui étaient dans l'opposition, qui s'opposaient à cette folie, à ce nazisme tropical, comme on a pu le dire. Quelle résistance ont-ils opposés? On a l'impression qu'ils sont allés comme des moutons à l'abattoir. On l'a dit d'autres à certaines époques. Et non, il y a eu des résistances. Et c'est ce qu'on va découvrir sur Niaroubouillet, sur le massacre de cette paroisse de Niaroubouillet. C'est ce qu'on a découvert avec Guy. Il y a eu des résistances. Des hommes, on s'est pas laissé faire comme ça aussi facilement. C'est dans le déroulement de ce massacre que nous allons aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment, auparavant, dans quel état d'esprit on était? L'histoire se raconte toujours à coup de date, hein. Tout a commencé, nous dit-on, le 6 avril 1994 par l'attentat contre cet avion. Mais ça, c'est des idées de journalistes, c'est des idées à nous qui pensons que le film commence lorsque nous arrivons. Il suffit que nous mettions un pied quelque part et hop, le film commence. Et les autres journalistes arrivent en espérant pas louper le début. Le début, c'était bien avant, c'était des décennies, parfois des siècles même avant, comme c'est le cas dans cette région du monde, dans ce pays, où des archéologues, où des études linguistiques nous montrent qu'en fait, Tutsis et Hutus vivent ensemble depuis 2 millénaires. Depuis 2 millénaires. Aussi n'y a-t-il pas de tribus au Rwanda. Aussi, s'il y a des ethnies, c'est une pure invention de la colonisation. C'est quelque chose qui a été imposé et puis qui a été intériorisé et qui l'est aujourd'hui sans doute plus que jamais. Plus que jamais, jamais ça, on aurait voulu que le mot que nous avons tellement rabâché depuis ce que vous savez, depuis la Deuxième Guerre mondiale, que ce mot perde son sens. Et il l'a repris entièrement au Rwanda, 100 jours au cours desquels près d'un million d'hommes, de femmes et d'enfants ont été massacrés, tandis que nous regardions ailleurs, c'est-à-dire notre télé, nos radios, nos journaux, où on nous racontait, où les journalistes, les médias nous racontaient ce qui se passait, et nous étions absolument inertes, apathiques devant ce massacre. 10 ans après, Mirou Bouillet.
Le génocide, c'est un crime qui ne vieillit pas.
Elle s'appelle Mukarutabana Jacqueline.
Alors Jacqueline, elle est inquiète, Jacqueline, parce qu'elle se dit que là, elle va donner un témoignage et que les voisins d'en face sont pas très chaleureux, quoi. Hein, comment vous vivez 10 ans après le génocide? Comment vous vivez avec vos voisins?
Je suis obligé de vivre avec mes voisins, même si parmi eux, ils avaient des membres de leur famille qui ont décimé toute ma famille. Je n'y peux rien, mais je devrais toujours donner les témoignages.
Toujours donner un témoignage, c'est l'idée que se fait Jacqueline de son devoir aujourd'hui. On est dans un petit village qui s'appelle Guitoué, dans la commune de Rouquéra, et cette femme est assise là dans cette pièce un peu vide, et elle veut raconter. Elle raconte depuis 10 ans, elle raconte ce qui s'est passé à Mirou Bouillet. Annie Roubouillet, nous avions découvert Valentine, mais il y a d'autres rescapés de ces massacres. Et Jacqueline en fait partie. On va essayer de raconter comment les choses se sont passées d'heure en heure, enfin de jour en jour. On va essayer. Et on va commencer avec Jacqueline. Quand elle lève les yeux et qu'elle regarde par la fenêtre de sa maison, dans les silences de l'entretien, il y a des moments où il faut se taire, il faut laisser passer un peu de temps, et puis après on reprend la conversation. Elle regarde par la fenêtre, et par la fenêtre elle voit la maison des voisins en face. Et ses voisins d'en face, c'est ceux qui ont tué sa famille. Et il faut vivre ensemble. C'est une souffrance extraordinaire, sans doute. Il n'y a pas beaucoup de précédents dans l'histoire de l'humanité où des gens sont obligés de vivre comme ça. Obligés parce que c'est un tout petit pays avec une densité de population terrible, 310 ou 320 habitants au kilomètre carré, et des kilomètres carrés de terre, c'est-à-dire de ressources. Ce sont des paysans, des agriculteurs, ces gens-là. Et donc, voilà, il faut absolument être obligé de vivre ensemble. Alors on fait semblant, on fait comme si, on se salue, on se sourit, on se rend même des services. Mais sous cette vitre, sous ces masques, il y a une plaie ouverte. Aujourd'hui, Jacqueline, vous vivez en face de gens qui ont tué votre propre famille. C'est-à-dire que vos voisins d'en face, c'est ceux qui ont tué les gens de votre famille.
Oui, oui.
Vous arrivez à vous parler?
La plupart de ceux qui ont tué sont en prison. Les autres, je dois vivre avec eux, je n'y peux rien. Je leur cause, mais on ne parle jamais de ce qui s'est passé.
Est-ce que aujourd'hui, 10 ans après, est-ce que vous avez compris pourquoi ils ont fait ça?
Ils ont fait ça parce que pour eux, ils étaient convaincus. C'était l'ultime conviction qu'ils devaient exterminer des Tutsis. Moi, je ne savais pas encore ce qu'était la haine entre Hutu et Tutsi. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas se donner une raison, à part celle-là, qui devait exterminer les Tutsis. On leur a inculqué ça depuis des années. C'est ce que je crois. Tout a commencé quand on était encore des élèves. Un exemple concret, un professeur, un enseignant qui donne l'ordre à ce que tous les Tutsis qui se mettent debout alors qu'ils sont en classe.
Ça, on vous disait ça quand vous étiez enfant?
Oui. Nous, on ne comprenait pas pourquoi on nous disait de nous mettre debout. Les enseignants faisaient ça souvent. Début avril, bien avant la mort de Habyarimana, il y avait une certaine tension entre nous. Nos voisins tout disaient qu'on allait tuer les Tutsis. Par exemple, mon père, qui avait quelques vaches, ses voisins lui disaient, oui, tu n'as qu'à continuer à garder ces vaches seront bientôt à nous. On ne comprenait pas le message. Mais nous, on ne savait pas ce que c'était, une Ngotanyi, FPR, nous étions très loin de la réalité.
Très loin de la réalité, très loin du FPR, mais avec la mémoire, comme tout le Rwanda, comme chaque Rwandais, des massacres précédents, des massacres de 59, des massacres de 63, des massacres de 73, entre autres, et massacres tous restés impunis, massacres de Tutsis, bien évidemment. Il y a des gens qui s'appellent, entre eux, au Rwanda, des 59ards, c'est-à-dire ceux qui, lors de ce qu'on a appelé la révolution sociale, ont fui le pays, ces Tutsis, qui ont fui le pays. Donc, le génocide ne commence pas ce jour-là, ne commence pas le 6 avril 1994, il y a 10 ans, mais bien avant, et on peut le faire commencer aisément à 1959. Donc c'est ça qui est présent dans les esprits, c'est ça qui il y a une sorte de fatalité qui finit par gagner les cœurs et les têtes dans une contrée où il y a les vies sont très à la fois très sclérosées parce que les gens vivent très confinés dans leur colline, tout le monde se connaît, tout le monde connaît tout le monde, et où tout est très organisé. Il faut le rappeler encore une fois, ça correspond pas à l'idée que nous nous faisons généralement de l'Afrique dans nos clichés, mais le Rwanda, tout comme le Burundi, d'ailleurs, et d'autres États africains, mais restons sur ces deux-là, sont des États extrêmement organisés, administrés, bureaucratisés. Et on sait énormément de choses, et les gens se contrôlent entre eux et sont contrôlés également entre eux. Et donc la tension est très grande. Il y a des signes qu'on a pu percevoir auparavant. On a pas mal de témoignages qui vont dans ce sens-là. Et un voisin de Jacqueline, dans ce petit village de Gitwe, dans la commune de Rukira, nous explique les choses un peu plus précisément. Il s'appelle Frédéric. Frédéric, donc. Tout commence le 6, vous êtes au courant de l'attentat contre le président Habyarimana et la mort du président Habyarimana. Et vous dites que le 7, on vous dit par la radio de rester chez vous.
Le 7, après l'annonce à la radio et les autorités locales de Gitwe, de notre commune, nous interdisant de sortir de notre maison. Nous sommes restés cloîtrés chez nous à la maison. Mais de temps en temps, on essayait d'aller à la rue principale pour savoir ce qui se passe. Le 8 avril 1994, la tension commençait à monter. Il y avait des rumeurs. Les inérables de la commune Birenga commençaient à attaquer notre commune, la commune Rukira. À ce moment-là, il n'y avait pas de problème avec les gens de Rukira. Le 9 avril 1994, ils ont commencé à monter vers nous. Ils quittaient Birenga vers Gitwe. C'était des Rwandais, c'était beaucoup de gens qui s'étaient couverts de feuilles de manioc. Ils étaient très nombreux.
twese dufatanyije dutangiye kujya twirwanaho tubasubiza inyuma.
À ce moment-là, c'était tout le village de Gitwe qui était attaqué. Alors on se défendait tous ensemble, Hutu et Tutsi.
Le 12 avril
1994, Rukira était à feu et à sang. Ces gens n'étaient pas venus entrer dans Rukira.
Les gens
qu'on supposait être nos amis, nos voisins, ils ont retourné leur veste. Ils ont commencé à être menaçants. En fait, les Hutus ont compris que l'ennemi était le Tutsi. Ils cherchaient à tuer le Tutsi. Eh bien, ils se sont retournés contre nous. Nous nous sommes enfouis à Nyarubuye.
Le 12.
Pourquoi vous êtes parti vers Nyarubuye?
En fait, les attaques venaient de ce côté-là. Donc, Nyarubuye est de l'autre côté. C'est pour ça qu'on s'est enfui à Nyarubuye. Arrivé à Nyarubuye, on vivait avec la population de Nyarubuye. Mais comme il n'avait pas où nous mettre, ces gens de Nyarubuye, on était obligé d'aller à l'église.
Voilà les détenus qui arrivent dans leur costume rose impeccable et qui viennent de sortir de la prison. On voit par la porte, on voit la prison là. Tous les détenus en rose. Voilà. Bonjour.
Bonjour.
Alors tous les quatre sont là. Allez, on va dans ce bureau. On va se mettre en rond.
Alors attends, moi j'ai des dons. Qui est Évariste? Laurien, Silas. Silas et Guitera.
Guitera, ok, ok.
Il y a un moment où on a
L'autre c'est mon frère, lui c'est un ami.
Vous êtes trois frères?
Un. C'est son voisin.
Vous êtes de quelle région en fait d'origine, vous, tous les quatre?
Rukira. De Rukira.
De Rukira?
Nous étions des agriculteurs, il y avait des briqueteries à Rukira.
Mmh. 25 ans de prison, 16 ans, 10 ans de prison. Ils sont tous les quatre, Évariste, Laurien, Silas et Guitera, dans cette prison à Kibungo. Dans leur costume rose, avec tous les prisonniers au Rwanda sont affublés de ces costumes roses, et voilà, ils sont du même village, de la même commune de Rukira que Frédéric qu'on vient d'entendre. C'est des gens qui se connaissent depuis leur enfance, qui ont grandi ensemble, et puis il y a eu ce jour, ce 6 avril, et puis la suite, et qui a précipité Évariste, Laurien, Silas, Guitera avec des machettes, avec des gourdins, avec des lances, avec à l'assaut de leur voisin. Et aujourd'hui, il raconte. Alors, il faut être très attentif à ce que racontent les détenus dans les prisons au Rwanda. Il y a une partie de ce qu'ils racontent qui a une certaine qualité, un certain intérêt comme témoignage. C'est tout ce qui concerne le déroulement des massacres, etc. Mais quant à la vérité sur ce qu'ils ont fait, ça c'est tout à fait autre chose, puisque les détenus fonctionnent sur la justice aujourd'hui au Rwanda fonctionne sur le système du plaider coupable, c'est-à-dire que on s'accuse de quelque chose, on dit voilà j'ai tué, et en échange de quoi on a une peine limitée, même si on a tué beaucoup plus que ça. Ben, la peine sera limitée. Donc, sur leur peine et sur cet aspect-là de leur témoignage, ça n'a qu'une valeur très, très limitée. Mais sur le reste, ils donnent assez bien l'idée de ce qu'a pu être ce massacre.
Le 13 avril 1994,
il y a quelqu'un qui est venu dans notre village. Quelqu'un qui s'appelait Sebazungu. Il nous a dit, est-ce que vous êtes au courant? Au courant de quoi? Toutes les maisons des Tutsis ont été pillées dans tout le pays. Vous, vous ne faites rien du tout. Vous restez les bras croisés. Et puis il est parti en tête. Nous l'avons suivi. Nous avons pillé les maisons des Tutsis. Ce jour-là, on a tout pillé. Tout. Le lendemain, le 14 avril 1994, vers 15h,
le responsable
est venu. Il nous a dit que le conseiller avait ordonné que tout le monde se rassemble demain, le
15,
pour aller tuer les Tutsis à Nyarubuye, le 15 avril 1994.
Ah!
Il nous a dit d'amener tout ce qu'on avait comme armes blanches. Gourdin, machette, couteau.
Qu'est-ce qu'il vous a dit pour vous convaincre de venir?
C'était un ordre. Quand le conseiller donne un ordre, nous devons exécuter. Mais maintenant qu'on a vu les conséquences, on regrette vraiment.
Oui. Mais toi, le catholique, par exemple, hein, toi, ton principe, c'est tu ne tueras point.
C'est Liouk. Je ne me rappelle pas le 5e commandement.
Mais il y a un commandement qui dit tu ne tueras point.
Oui, je le sais très bien. Oui, je le sais très bien. Tuer quelqu'un, c'est vraiment pas bien.
Ben non, c'est pas bien. Et alors, quand on t'a dit d'aller tuer, t'es allé tuer.
Je ne peux pas comprendre, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais moi j'ai fait ça parce que c'était un ordre.
Toi, est-ce que tu as pensé à refuser?
Non, je n'ai pas dit non. Je n'ai jamais pensé à dire non parce que c'était un ordre. C'était un ordre.
C'était un ordre. Alors évidemment, tous les prisonniers vous disent ça, tous les détenus vous disent ça, c'était un ordre, j'ai dû obéir, j'avais pas le choix, et voilà. C'est un argument voilà qu'on nous donne souvent. Alors un autre acteur important et témoin important du massacre de Nyarubuye, c'est un certain Jonathan. Jonathan Berakoumé, il était le garde du corps d'un personnage tout à fait terrifiant de cette région, un certain Gakoumbitsi. Et Gakoumbitsi était bourgmestre dans la région, d'un bourgmestre exactement du secteur de la commune de Roussoumo, et il a été un maillon et un organisateur extrêmement zélé et engagé dans les massacres de ses compatriotes. Il est actuellement jugé au tribunal pénal international d'Arusha en Tanzanie, et le jugement devrait intervenir le concernant au mois de juin, dans quelques semaines. Il fait partie, lui, des tueurs de première classe, des génocideurs de première classe, même si très souvent ces gens-là ne se sont pas salis les mains eux-mêmes, mais ont poussé les autres, comme ceux que nous venons d'entendre, à faire le travail, selon l'expression qui était employée. Et l'employé, le voilà, c'est Jonathan. Lui, il a fait le garde du corps, le chauffeur à l'occasion. Il était policier, il a fait 6 années de prison, il a été libéré, toujours sur le même mode de justice, c'est-à-dire le plaidé coupable et le repenti, c'est-à-dire qui collabore avec la justice, qui dénonce, quoi, disons, les choses très simplement, mais qui apporte des éléments précieux.
Je m'appelle Berakoumenyo Jonathan, j'étais policier de la commune de Roussoumo à Kibungo.
Rusumo, c'est pas loin de Nyarubuye. C'est pas loin de la paroisse de Nyarubuye.
Il y a à peu près 18 kilomètres entre la commune de Rusumo et la paroisse de Nyarubuye.
Comment ont commencé les massacres dans la région et comment vous, le policier, s'est trouvé impliqué dans ces massacres?
C'est mieux que je commence toute l'histoire à partir du 8. En fait, le 8, je suis partie avec Gachumbitsi au camp de Kibungo où on est allé chercher des armes. On a amené 50 fusils et un sac de grenades. Gachumbitsi était le bourgmestre de la commune de Rusumo.
C'était des armes qui venaient d'où?
On était allé chercher cela dans le camp militaire de Kahouye à Kibungo, en ville. Sur le chemin du retour, on est allé chez un certain Gwagasore où tous les bourgmestres ont fait une réunion le même jour. Moi, je gardais les armes, les fusils et les grenades qu'on venait d'amener, mais c'était dans une salle à côté de la salle de réunion, alors je les voyais tous.
Voilà. Ça, c'était la réunion de tous les bourgmestres, c'est-à-dire tous les maires de la région.
Mais il y avait aussi Gatete qui venait de Morambi dans cette réunion-là.
Et Gatete, c'était un haut responsable.
Gatete, c'était lui le chef. Et d'ailleurs, quand il est arrivé ici, c'est lui qui a commencé à donner les ordres. Et il nous a même frappé alors qu'on était supposés être des policiers. Il disait que nous ne faisions rien.
Comment ça se fait que vous n'étiez pas déjà en train de tuer?
Il a dit que nous, les policiers, nous avons rien fait parce qu'on avait tué quelques hommes, mais qu'il y avait encore des hommes en vie, et surtout les femmes et les enfants. Il a dit qu'on doit tout tuer. Après la distribution des armes, c'est alors que la guerre a commencé dans tous les secteurs. Alors moi, j'accompagnais Gachumbitsi pour voir comment on travaillait dans les secteurs. En fait, comment ça avait commencé? Il y avait les paysans de Rukira qui étaient venus et les Inyarumwe de Rukira qui étaient venus attaquer Nyarubuye. Alors, la population de Nyarubuye, les Hutus et les Tutsis de Nyarubuye, ils ont combattu contre les Inyarumwe qui venaient de Rukira.
Et tu as dit,
c'était vers le 13 avril.
Donc voilà, pour Jonathan, c'était le 13 avril. Mais on voit à travers son témoignage à quel point tout ça était très, très organisé. La distribution d'armes, l'organisation, tout l'État rwandais tout entier était mobilisé en vue de cette extermination. C'est une fois de plus, on a la preuve là que c'est le contraire de massacre dû à on ne sait quelle folie collective. C'était organisé, prévu, calmement planifié, et c'est un véritable c'est l'accomplissement d'un projet précis, basé sur des idées bien précises, c'est-à-dire l'extermination des Tutsis et des Hutus qui s'opposaient, qui s'est produit dans ce pays il y a 10 ans.
Alors quand les gens de Rukira, les Inyarumwe et les paysans de Rukira ont vu que Nyarubuye venait de les vaincre, ils sont allés appeler les gendarmes, les policiers, les militaires.
Les habitants qui s'étaient réfugiés à Nyarubuye ont repoussé les Inyarumwe qui venaient les piller. Les Hutus et les Tutsis de Nyarubuye se sont battus ensemble.
Aussi.
Oui, au début, ils ont combattu ensemble jusqu'au 13. Quand l'armée est venue et les militaires et d'autres Inéramoui, ils les ont séparés, leur disant qu'ils n'étaient pas les mêmes, qu'ils étaient différents et qu'il fallait tuer les Tutsis qui étaient là.
Et alors, est-ce que les Hutus qui s'étaient battus auparavant aux côtés des Tutsis pour repousser les assaillants, est-ce qu'ils se sont effectivement retournés contre les Tutsis?
Oui, eux aussi, ils sont partis, ils ont directement changé de camp et ils ont commencé à tuer, à faire des massacres.
Pourquoi vous avez mis vous tenir quoi?
Parce qu'ils venaient de recevoir des ordres. C'est comme ça que ça s'est passé.
Sauf qu'il y a eu de la résistance à Nyarubuye. On le sait pas, on le sait peu, parce que l'histoire de chaque lieu de massacre sera longue, évidemment, à raconter, à décrire. Ça suppose des recherches, ça suppose que des enquêteurs, des historiens se mettent à l'œuvre pour raconter ce qui s'est passé dans chacun de ces endroits. C'est en cours. Il y a des lieux où l'histoire est racontée, mais c'est pas du tout le cas pour l'instant à Nyarubuye. Pour ceux qui passent rapidement dans cette région, bon ben voilà, il y a eu un massacre, c'est terrible. Mais il y a eu bel et bien, une résistance dans un petit peu en contrebas de la paroisse à Nyarutonga, la veille du massacre, c'est-à-dire le 14 avril 1994, les habitants ont résisté. Frédéric.
Ce qui a suivi, c'est que les gens qui sont revenus, ils étaient avec des gendarmes. C'était des gendarmes qui venaient. C'était 8 gendarmes. Avec des fusils. Ils avaient des armes. Ils étaient en voiture. Suivi de beaucoup de gens. Énormément de gens. C'était une foule de personnes. Avec des gourdins, des machettes, des lances. Des arcs. Nous, quand on a vu les gendarmes, on s'est dit, nous sommes sauvés. Parce qu'ils étaient chargés de faire régner l'ordre. Quand ils sont arrivés, ils ont tiré en l'air. Nous nous sommes arrêtés. Ils nous ont dit de nous asseoir, les gendarmes. Nous nous sommes assis.
Vous étiez combien?
Nous étions plus de 500. Ils nous ont dit d'enlever nos chemises. Nous avons enlevé nos chemises. On nous a dit de mettre nos gourdins, tout ce qu'on avait comme arme blanche, de les mettre à côté. On les a mis à côté. Nous nous sommes mis sur le dos. On avait le soleil au-dessus de la tête. Les gendarmes ont dit à ces Interahamwe qui avaient peur de nous de se rapprocher de nous. Quand ils se sont rapprochés de nous, ils ont dit à ces Interahamwe de prendre ces armes qu'on venait de déposer. Tous ces
Interahamwe,
ils ont pris nos armes. Alors, les gendarmes nous ont encerclés. Ils braquaient leurs fusils sur nous avec des grenades. Beaucoup de grenades. Ils ont choisi parmi nous deux personnes. C'était Vincent et Rwanyindo. Ils les ont tués immédiatement devant nous. Un Interahamwe a frappé avec un gourdin sur la tête. Mais il n'est pas mort sur le champ. Alors le gendarme le plus gradé a dit à un de ses Interahamwe de le tirer avec un fusil. Il a pris le fusil, il a tiré. Il a tué Vincent et Vincent est mort sur le champ. Mm. twahise duhagurukira icyarimwe ikivunge.
Nous nous sommes levés tous comme un seul homme.
Twivanga na zantera hamwe na baba gendarme.
Nous les avons attaqués. Nous sommes rentrés dans ces itinéraires les gendarmes. On n'avait plus rien à sauver.
Noneho rero abashakaga kurasa n'abashakaga
kwica. Ceux qui voulaient tuer à coups de machette ne savaient plus qui prendre, qui laisser.
Ubwo rero tumaze kwivanga nabo twarirutse.
Quand nous nous sommes mélangés avec eux,
que twirutse nono dusubira inyuma aho
abatafui en débandade.
Mu byukuri rero jewe mva aho ngaho mvuye aho ngaho.
Moi personnellement,
nabandi twahise twiruka tugana ya Tanzania.
Je me suis enfui vers la frontière de la Tanzanie.
Tugeze ku Kagera mu byukuri ikintu cyadutunguye tubona ko ari ibintu byari byarateguwe.
C'était vraiment par chance, nous sommes arrivés à la rivière Kagera.
Twasanze amato yose ntayahari.
C'est là on a constaté que c'était vraiment planifié. Il n'y avait même plus de bateaux. Les pirogues qui étaient à la rivière Kagera n'étaient plus là.
Kuri 14 twagiye twebwe ninjoro.
Nous sommes partis le 14 soir.
Kuri 15 mu gitondo nibwo twageze ku Kagera.
Le 15 avril, on était à la rivière Kagera.
Ubwo twagize amahirwe yuko haje umuntu mu byukuri n'impuhwe we n'umunyampuhwe.
En fait, il y a eu quelqu'un plein de charité.
Araza ati abafite ibihumbi bibiri amafaranga ibihumbi bibiri.
Il nous a demandé s'il y avait quelqu'un qui a 2000 francs rwandais.
Waruya afite rero twarayatanze ariko hari n'abandi batari
baye. Il y avait 2000 francs, il a donné les 2000. Mais il y avait d'autres qui n'avaient pas ces 2000 francs.
Icyo gihe bashoboye kwambuka. Twashoboye kwambuka turi abantu bagera muri 60.
Ceux qui ont pu traverser, nous étions autour de 60.
Nyuma yaho babandi basigaye aho ngaho intera hamwe.
Les autres qui sont restés, qui n'ont pas pu traverser,
Interahamwe zabasanze aho ngaho.
Les interahamwe les ont trouvés là-bas.
Zibasanze aho ngaho zabikiye ku Kagera zibata mu mazi.
Ils les ont tous tués et jetés à la rivière.
Kuri 15 rero nibwo twaje kumva ko tugeze iri hakurya nibwo twaje kumva ko noneho bateye inyarubuye. Iri nyarubuye byo twe ntabwo twiye tubimenye.
Arrivé le 15, c'est là où on a entendu que les interahamwe avaient attaqué à Nyarubuye. On ne sait pas ce qui s'est passé à Nyarubuye.
Icyagaragara gusa icyo gihe nashoboye kubona mbere yuko ibyo biba umuntu witwa umuyobozi wese icyo gihe wari uhari yarabizi.
Ce qui était vraiment flagrant, c'est que c'était planifié, organisé. Toutes les autorités étaient au courant de ce qui se tramait.
Nyarutunga, donc lieu de résistance, lieu de qui sauve évidemment l'honneur des Tutsis de cette région et dans chaque témoignage on retrouve et les Hutus aussi parce que il y a beaucoup de couples mixtes, il y a des Hutus qui se sentent pas du tout liés avec ces assassins et qui arrivent couverts de feuillages de manioc ou de feuilles de bananier qui se retrouvent pas là-dedans non plus. Il faut surtout essayer d'éviter d'opposer ces deux ethnies et de continuer éternellement dans l'antagonisme ethnique. Alors, on le dit et on le redit, mais c'est bien d'en avoir une fois de plus les preuves, c'est l'organisation, la préparation qui fait qu'aujourd'hui, même si il s'avérait que le déclenchement est dû au FPR, aux responsabilités de l'actuel président du Rwanda, ce qui n'est pas exclu évidemment, on n'a pas les résultats de ces enquêtes. Le génocide était préparé bien avant, depuis longtemps, au plus haut niveau et de l'État et dans les moindres ramifications locales au niveau des districts, des communes, des secteurs, comme nous le précise Jonathan, donc cet homme policier qui était le garde du corps d'un bourgmestre fameux dans la région, un grand criminel qui s'appelle, il est en jugement actuellement, Sylvestre Kakumbichi.
On parlait aussi de Gachumbitsi, le bourgmestre, qui sillonnait la région avec une voiture et un haut-parleur, appelant les uns et les autres à massacrer plus ardemment et plus vaillamment.
C'est moi qui portais le haut-parleur.
Ibyo navuze ni byo navuze konti. Abaturage mwese bo muri sekiteri ya Gatore muze mwitabe inama ya burugumesiri Gacumbitsi, murakenewe vuba vuba byihutirwa.
j'ai dit toute la population du secteur Gatoré, venez tous, il y a une réunion de Gachumbitsi et c'est très très important, c'est très urgent, il faut que vous soyez là. La plupart des paysans, on est allé les chercher chez eux et on avait une voiture et on les mettait dans la voiture et on les a menés là-bas. C'était le 11 avril.
En fait, il était en train de monter une partie de la population contre l'autre.
On a sillonné tous les secteurs et alors il donnait des ordres, il sensibilisait la population. Par exemple, quand il voyait des personnes, une cinquantaine de personnes avec des lances, des machettes ou des massues, qui avaient aussi des vaches avec eux, il leur demandait si ça allait bien. Et eux, ils répondaient que ça allait bien. Alors, ça veut dire que le travail était en train d'être bien fait. Alors, on continuait.
C'était le travail.
Oui, c'était le travail.
Donc, Gachumbitsi faisait des tournées dans la région en distribuant des armes.
Il s'était subdivisé en plusieurs secteurs. Il y avait un Célestin Hamashangiro. Lui, il travaillait dans la région de Kirehe. C'est pas très loin d'ici. C'est lui qui distribuait les armes là-bas. Il y a aussi Barimwabo qui s'occupait de la région de Kigarama, qui avait reçu un véhicule. Il y a aussi Kamenyero pour la région de Nyamugari. À Nyarubuye, on est allé là-bas.
Qui, vous, avec Gachumbitsi et d'autres?
À Nyarubuye, on s'en est vraiment occupé. C'était moi, Gachumbitsi, Gatete, des Inéramoui qui étaient là-bas et les policiers ainsi que 5 voitures.
C'était quel jour que vous êtes arrivé à Nyarubuye?
C'était le 15 avril.
Ce jour-là, le 15 avril, ce sera demain dans la Bastille. J'y suis. Merci à tous. Merci à nos traducteurs, à Maurice et à Alice. Merci à Valentine, Jacqueline, Jonathan, Frédéric, Évariste, Laurien, Guitéra, Silas. Merci à Steve, à Gabin. Merci à Martin, à Pierrot, Madeleine, Pauline et Francesco. Reportage, montage, Guy Vanquil, technique aujourd'hui, Henri Bérec et Armel M. Répondeur, Christophe Imbert, montage, Yann Chouquet, assistant musique, Koyen Guyed. Et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission. Je rappelle le numéro du répondeur de la base où j'y suis, qui attend vos messages, comme chaque jour. C'est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Pub!